Nous l'avons annoncé, il est en ligne avec nous. Lui, c'est Denis Nkwebo. Denis Nkwebo qui est président du Syndicat national des journalistes du Cameroun. Bonjour Denis.
Bonjour Achille.
Alors, si on vous a convié à notre, je vais appeler, banquet matinal, aujourd'hui c'est pour parler de cette affaire, une affaire finalement scabreuse, celle de la mort, de la disparition d'un journaliste. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la mort de Samuel Wazizi? Son avocat, jusqu'à hier, était encore mesuré. Sur quelle base, vous, le président du SNJC, avez déclaré la mort de Samuel Wazizi, Denis?
Alors, après la première fuite d'informations organisée justement par ceux qui ont été Samuel Wazizi, nous avons pu mener une petite enquête assez rapidement avec un faisant des recoupements auprès des sources militaires les plus fiables.
Oui.
Et après donc une ou deux réponses, nous étions en mesure de savoir que Samuel Wazizi n'était plus en vie. Puisque l'information publiée par nos confrères venait juste confirmer les débris qu'on avait depuis des mois.
Oui.
À savoir que Wazizi n'était plus probablement en vie. Et,
Depuis des mois, vous dites. Depuis des mois, vous dites.
Bon, on ne voudrait pas beaucoup avancer, mais ce qui est sûr, c'est que au moins depuis plusieurs mois, disons 3 ou 4 mois, pour le moins qu'on puisse dire, il n'était plus en vie. Donc ça fait longtemps, en réalité, qu'il n'était plus en vie. C'est-à-dire que nous avions des informations qui venaient au fur et à mesure, puisque nous travaillons sur le dossier, et notamment avec à travers l'action en habeas corpus qui avait été introduite au niveau du Sud-Ouest.
Oui.
Il nous revenait de plus en plus que le fait que la procédure soit retardée, de renvoi en renvoi, le refus de mise en liberté provisoire à un moment donné, l'embarras même des juges en charge du dossier, montrait qu'il y avait un problème. Donc nous cherchions, nous voulions pas croire sans preuve qu'il n'était plus en vie, mais on était bien obligé de faire cette sortie-là parce que en mettant tous les éléments ensemble, on pouvait s'avaler à dire qu'il n'était plus en vie. De toute façon, nous avons posé la question.
Oui.
Aux personnes les plus en mesure, pour ne pas les citer, les plus en mesure de savoir ce qui s'est passé au niveau de l'armée. Et une source militaire nous a confirmé que, effectivement, Samuel Wazizi était décédé des suites de maladie à l'hôpital militaire de Yaoundé. Bon, là, on a commencé à confirmer les éléments qu'on avait nous-mêmes en notre possession.
Oui.
Ce qui est sûr, c'est que il n'est plus en vie.
Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'informations sur cette affaire? Vous semblez confirmer la thèse selon laquelle Samuel Wazizi serait décédé depuis quelques mois déjà. Lors de toutes vos investigations, combien de fois le syndicat s'est penché sur ce cas-là? Et pourquoi il n'y a pas eu de retour de la part des autorités militaires, tout au moins?
Dès le jour de l'interpellation de Samuel Wazizi, le syndicat était en formation à Bonandjan avec la Fédération internationale des journalistes. Le directeur en fait de la Fédération internationale des journalistes, Thomas, lui, était avec nous en formation. C'est en salle de formation qu'on a eu l'information.
Oui.
Sur le champ, nous étions avec une délégation du Sud-Ouest. Ma propre personne, président du syndicat au Sud-Ouest, Leonard Koum, on a contacté le commissariat où Samuel Wazizi était gardé à vue. Nous avons obtenu les responsables du commissariat qui ont dit effectivement qu'il était là. Et j'ai proposé au commissaire de recevoir une délégation du SNJC. Ce qu'il a accepté de faire. Et le lendemain, à 10h, 6 membres du SNJC se sont rendus au commissariat pour rencontrer le commissaire, rencontrer les enquêteurs. Ses camarades ont eu accès à Samuel Ouazizi. Par la suite, le président du FNC est resté en contact 4 jours avec et le commissariat et Samuel Ouazizi. À la dernière conversation que nous avons eue, que moi j'ai eue avec lui, il nous disait qu'il craignait pour sa vie et qu'il ne fallait pas qu'on le lâche.
Oui.
Ça, c'est la dernière conversation qu'on a eue avec lui. Le lendemain, lorsque nous avons contacté le commissariat, on nous a dit officiellement que l'armée, les militaires sont venus la nuit, le sortir de sa cellule et qu'ils l'ont amené à Bongo Square. À ce moment-là, les membres du SNJC ont cotisé de l'argent et ont pris les services d'un avocat au sud-ouest,
oui,
au sud de la terre. Puisque, étant donné qu'il était dans un camp militaire, que nous pouvons le voir, il fallait rapidement prendre recourir au service d'un homme de droit. Et ce qui a été fait, par la suite, donc, on n'a plus eu d'informations officiellement jusqu'à ce que la nouvelle de la mort de Samuel Ouazizi ait fuité officiellement. Voilà ce qui s'est passé. Entre-temps, il y a eu et des déclarations des syndicats et des actions. Le SNJC a pu rencontrer toutes les autorités qui pouvaient apporter, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations pour la cause.
Oui.
Ce qu'on doit savoir, ce que les gens doivent savoir, ce que les journalistes et le public doivent savoir, c'est qu'un syndicat, ce n'est pas une institution judiciaire. Un syndicat, c'est une organisation professionnelle encadrée par la loi qui a pour vocation de défendre les intérêts sociaux professionnels de ses membres. La loi encadre notre action. La loi dit ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons pas faire. La loi ne donne pas la possibilité à un syndicat de former un commando, d'aller entrer dans un commissariat ou un camp militaire, sortir qu'un de ses membres,
oui,
qui serait en difficulté. Ce n'est pas ce que la loi. La loi dit que nous sommes les conseils de nos membres. Donc, chaque fois que leurs intérêts, et bien sociaux professionnels, si vous avez des problèmes, une affaire pénale en justice, ça ne concerne pas le syndicat.
Oui.
Par contre, la solidarité va agir pour vous apporter une bouteille d'eau, pour venir vous rendre visite, pour vous apporter à manger, parce que, quelle que soit votre faute, vous restez un journaliste, vous restez un confrère, vous restez un ami, vous restez un frère. C'est ce qui se passe. Donc, il ne faut pas penser que le rôle du syndicat, c'est d'aller se mettre au-dessus de tous les juges, de toutes les autorités et agir. Nous ne sommes pas une organisation anarchique,
oui,
protégée par je ne sais quelle loi. Donc nous faisons la diplomatie syndicale. La diplomatie syndicale consiste au syndicat à utiliser ses relais à l'intérieur, à utiliser la chaîne de solidarité, la Fédération africaine des journalistes, la Fédération internationale des journalistes, le comité pour la protection des journalistes, c'est-à-dire pour sensibiliser autour d'une cause, pour que justice soit rendue. Parce que quelle que soit votre faute, le travail du syndicat consiste à veiller à ce que nous sommes comme l'avocat. L'avocat n'est pas,
oui,
un juge.
Oui.
Nous protégeons nos mandants, on a fait ce travail. Et quand on fait ce travail, on ne peut pas revenir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dire voilà, le syndicat a rencontré Israël hier. Il y a des gens qui nous ont aidés à maintes reprises à faire libérer tel ou tel camarade qui sera en service de police, de gendarmerie ou même en prison. Et un syndicat ne vient donc pas dire voici la personne que nous avons rencontrée hier ou avant-hier pour obtenir telle chose. C'est cela participe de la diplomatie syndicale et personne ne devrait même chercher à savoir. Vous savez, en Afrique, le SNJC est reconnu par la Fédération internationale des journalistes et la Fédération africaine des journalistes comme le syndicat le plus à même d'assurer au mieux la défense de ses membres.
Oui.
Quand ça se passe ailleurs, il n'y a même personne pour sortir. Au Cameroun, vous savez quand même qu'en ce qui concerne nos membres, nous n'en avons pas un seul détenu quelque part. Un seul membre détenu quelque part. Tous les membres du SNJC qui ont eu des ennuis avec la justice, avec la police ou la gendarmerie, se sont toujours tirés d'affaires, sains et saufs.
Oui.
Et je suis en train de parler en public. Vous êtes témoin. Il y a des membres qui sont là dans votre qui parlent que nous réussissons, pas parce qu'on est très fort, nous réussissons parce que nous avons une démarche méthodique, une démarche respectueuse des règles, respectueuse des lois. Cette démarche-là fait en sorte que chaque fois que un journaliste est en difficulté et en rapport avec son activité, on est toujours obtenu gain de cause. Donc, le cas aujourd'hui est un cas particulier qui ne nous a pas échappé, mais quand on recoupe tout, on voit que c'est trop complexe. Et parce que nous avons entrepris des démarches également depuis hier, oui, la vérité de l'affaire va en réalité nous faire comprendre pourquoi les choses sont passées de cette façon-là.
Et justement, en parlant de la vérité de l'affaire, de votre diplomatie et du tact qu'on vous connaît, quelles sont les actions que vous entendez mener pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire?
Avec toute l'émotion que l'annonce de la mort de Wazizi a soulevé, et les membres du NCNGC ont pu peut-être le temps d'une journée calmer la fureur de leur colère pour se remettre sur le chemin qui a toujours été le nôtre. À savoir qu'on peut organiser une revendication sereine, oui, on peut organiser une revendication fondée sur des éléments factuels, sur les éléments existants, pour ne pas avancer et obtenir gain de cause. Nous avons mis sur pied le collectif Justice for Wazizi, Justice for Wazizi, qui va annoncer un plan d'action aujourd'hui à 18h. Pourquoi 18h? Parce que nous avons estimé que le gouvernement pouvait ne pas être en mesure de réagir hier sur,
oui,
le coup.
Oui.
Le gouvernement donc a eu la journée d'hier, le gouvernement a la journée d'aujourd'hui pour présenter les faits à la connaissance des journalistes et de l'opinion camerounaise. Il s'agit de la situation d'un citoyen camerounais qui est journaliste. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres pensent que c'est une affaire qui concerne le SNC. C'est pas une affaire qui concerne le SNC. C'est une affaire qui concerne un citoyen camerounais qui travaille dans un média établi au Cameroun, qui a eu des ennuis avec les autorités, mais les autorités n'ont pas pris la peine de nous communiquer à nos citoyens, à nos syndicats, à nos journalistes, ce qui s'est passé. Donc nous, on s'est donné du temps pour notre plan d'action et en donnant d'un même coup le temps au gouvernement d'apporter des réponses à des questions précises. Ces questions sont essentielles.
Oui.
Quel est le lieu où Samuel Wazizi est mort? Quand est-il mort et dans quelles circonstances où se trouve son corps? Voilà des questions simples qui ne sont pas des questions politiques dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'il y ait des équivoques sur l'action que nous menons.
Oui.
Nous voulons aujourd'hui qu'il est donné pour mort avoir ces éléments-là. Lorsqu'on aura ces éléments, on va apprécier. Donc nous, on ne peut pas avancer sans avoir les informations de base. On ne fait pas, nous sommes des Africains, on ne fait pas le deuil sans corps.
Oui.
On ne fait pas le deuil d'autrui sans avoir la preuve matérielle de la mort. Donc, on peut encore, parce que l'espoir, hier, j'ai discuté encore avec le directeur d'Afrique du Comité pour la protection des jeunes, qui disait qu'il ne faut jamais perdre d'espoir. Donc, par extraordinaire, on peut nous démentir et dire qu'on a fait faux de penser que Wazizi est mort. Et là, si on le dément, on le prend à défaut, on va faire amende honorable et on sera très heureux d'accueillir notre confrère vivant, ou au moins de le voir même devant une cour de justice. Donc, nous deux sommes donnés avec Kamasej, parce que nous travaillons avec Kamasej.
Oui.
C'est une démarche conjointe, assez responsable, mais nous sommes fermes sur nos positions parce que à tout moment, nous pourrions être appelés à manifester notre colère selon les règles du droit, mais nous nous donnons du temps jusqu'à ce soir de 8h. Et nous comptons sur la bonne compréhension du gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement veut se mettre les journalistes à dos. Et nous attendons qu'il y ait une communication
à ce sujet. Alors, Denis Kwebo, il y a une autre affaire qui semble pointer son nez, celle d'un autre journaliste anglophone, Kingsley Fomunyo Njoka, résident pour sa part à Douala, qui lui aussi est donné portée disparue depuis 10 jours. Qu'en est-il exactement?
Bon, là, on a des difficultés énormes parce que quand on nous dit qu'il y a un journaliste qui est porté disparu à Douala depuis 10 jours, nous l'avons appris par la voie des réseaux sociaux.
Oui.
Et aucune section du SNJC ne revendique la disparition d'un de ses membres pour l'instant.
Oui.
Le SNJC est structuré en sections syndicales et chaque section syndicale s'administre de façon autonome et ne saisit le bureau exécutif national que pour des questions d'intérêt général. Donc pour le moment, aucune section du SNJC ne nous signale qu'un de ses membres a des difficultés, aucun patron de presse ne nous signale qu'un employé de presse a des difficultés quelque part.
Oui.
Et nous allons éventuellement prendre des informations. Et en même temps, dire à l'opinion que nous ne savons pas au nom de quoi est-ce que lorsqu'un journaliste ou une personne se présentant comme telle a des ennuis, le SNJC est prêt à partir.
Peut-être que parce que vous êtes le syndicat le plus puissant.
Si nous sommes le syndicat le plus puissant, ce serait parce que les membres de la corporation adhèrent à un tel syndicat. Donc, si vous, on ne sait pas, s'il y a un problème à ABK Radio, le SNJC est capable d'être au courant en moins d'une minute. Parce que les membres y sont. Si cela se passe ailleurs, dans un autre média, que ce soit francophone ou anglophone, nous sommes en mesure de savoir ce qui se passe. Il se trouve justement qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent en dehors des organisations. Nous ne revendiquons pas l'exclusivité, mais pas organisationnelle. Il faut que les travailleurs, les journalistes sachent qu'à travers le monde, ceux qui sont dans la presse appartiennent à des organisations.
Oui.
Tout récemment, même les ministères, il y a le ministère de la communication qui a créé même ses propres syndicats. Donc le gouvernement a créé son syndicat et ça nous pose aucun problème. Parce que s'il est que tous ces syndicats-là travaillent pour les intérêts des journalistes, c'est même une très bonne chose. On aura une convergence, on aura beaucoup de structures capables de défendre les journalistes. Sauf que il y a eu récemment un grand dialogue national et la presse, apparemment, y était invitée. On a des journalistes de plusieurs organisations qui y étaient. Tous ceux qui disent que le SNJC est la plus grande organisation savent qu'on ne nous a adressé aucune invitation.
Oui.
Personne nous a dit qu'il fallait que les gens y soient. Il y a des réunions qui se tiennent au ministère de la Communication avec des personnes se présentant comme représentants de la presse. Mais on ne leur pose aucune question lorsqu'un journaliste a des difficultés. Vous voyez, c'est aussi là la difficulté de d'autres syndicats, mais nous allons, pour le cas du journaliste annoncé pour porter du pari, nous allons on va s'informer. Et s'il s'avère qu'effectivement c'est le cas, on va faire comme on a l'habitude de faire. On va déployer toute notre artillerie pour obtenir la vérité et la justice.
Donc, alors,
on n'avance pas sans information.
Oui.
On ne va pas seulement se mettre à crier qu'il y a un journaliste qui est porté de Paris, alors que nous ne sommes pas capables de donner soit son identité, soit le lieu où il travaillait, soit les éléments réels. Donc, si les gens savent depuis combien de jours il est porté de Paris, ça veut dire qu'ils peuvent également communiquer des informations. Il est porté de Paris depuis 10 jours. À Douala, il travaille où? À Douala, il venait d'où?
Oui.
Il travaille dans quel média au Cameroun? Là, ceux qui ont donné cette information n'ont pas eu peut-être les précisions nécessaires, mais nous, on va aviser, on en saura un peu plus.
Alors, Deddy Kwebo, on a d'autres affaires qui concernent des journalistes qui sont en suspens, en justice. On a le cas Amadou Vamulke, on a Paul Tchouta et quelques autres. Combien de journalistes sont emprisonnés au Cameroun? Et est-ce que le syndicat national des journalistes du Cameroun les défendrait, qu'ils soient membres ou pas?
Alors, je suis très embêté quelquefois lorsqu'on nous amène à dérouler le protocole d'intervention d'un syndicat.
Oui.
Voilà. Il y a au Cameroun aujourd'hui au moins une dizaine de journalistes en prison. De journalistes ou de personnes supposées telles également. Il faut être clair. Et nous sommes peut-être l'un des rares pays où les gens peuvent avoir des ennuis et invoquer leur casquette de journaliste.
Les ennuis privés.
Les personnes qui, en d'autres circonstances, ne revendiquaient pas leur casquette de journaliste. Donc, peut-être parce que on mène des actions d'éclat, entre guillemets, depuis un certain temps, peut-être parce que les gens voient que le syndicat peut se mobiliser ou un de ses membres en discuter, professionnel, obtenir bien des causes, la casquette de journaliste est mise en avant pour, n'est-ce pas, se tirer d'affaires. Moi, je suis enseignant de journalisme et syndicaliste de formation. Il n'existe pas de franchise journalistique en dehors de la franchise professionnelle. La franchise professionnelle confère à un journaliste la possibilité d'être défendu lorsqu'il est attaqué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions journalistiques.
Oui.
C'est ça la franchise professionnelle. Donc, si M. Denis Kobo n'a pas payé son loyer, s'il est en location, ne paye pas son loyer, et qu'il est poursuivi par son bailleur, le syndicat ne peut pas intervenir. C'est son avocat qui intervient. Le syndicat, s'il a un peu d'argent, peut lui prêter de l'argent pour payer son loyer. Si Denis Kobo est accusé de détournement de fonds publics dans l'entreprise qu'il emploie, jugé par les tribunaux camerounais, condamné ou alors poursuivi par les tribunaux camerounais, le syndicat n'a pas vocation à s'y mêler parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'intérêt socio-professionnel du membre. Il s'agit des problèmes personnels que le membre a.
Oui.
Donc, il n'existe aucun pays au monde où on demande à un syndicat de journalistes d'aller intervenir pour un journaliste ou supposé tel qui aurait des ennuis d'ordre privé. Le syndicat intervient sur des matières sociales, sur des matières professionnelles. Le syndicat n'intervient pas. Donc, si un employé de ABK Radio, là, c'est peut-être différent, est accusé d'avoir ramassé, d'avoir détourné les micros et des équipements de la radio, il s'agit d'une affaire de vol, le syndicat va seulement s'assurer qu'il s'agit d'accusations vraies. Donc, on va au tribunal pour s'assurer qu'il s'agit effectivement de ce dont on vous accuse. Et si c'est avéré ce dont on vous accuse, il existe des institutions dans ce pays pour connaître de ce type d'affaires. Donc, personne ne doit dire que le syndicat n'est pas venu au secours de l'employé Y qui a pris les micros. D'abord, c'est une faute grave. Le syndicat doit aussi vous poursuivre pour avoir pris les micros de votre entreprise.
Oui.
Parce que le syndicat défend la valeur travail. L'outil de travail, l'outil de protection doit être protégé parce que une telle protection serait également la protection du travail qui est source d'emploi, source de ressources, source de ressources et source de rémunération pour le travailleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le SNIC, d'abord, vous n'avez pas de M. Bamoké, qui n'est pas membre du SNIC, qui n'a pas, qui n'a même pas encouragé l'entrée du SNIC à la CIATI, parce que la CIATI a son syndicat de journalistes, le syndicat Sénamec, qui a des milliers de membres. Il appartient donc, si M. Bamoké était membre du SIDAMEC, le syndicat des employés de la CIATI, il appartient à ce syndicat-là. Qui a, la CIATI a refusé que les journalistes, sous M. Bamoké, que le SNIC vienne participer aux élections des délégués du personnel. Si nous étions introduits à l'époque à la CIATI avec des délégués du personnel SNIC, ces délégués du personnel nous auraient fait un rapport circonstanciel sur le cas Bamoké, ce délégué du personnel nous aurait fait un rapport sur son activité syndicale et à ce titre-là, nous l'aurions défendu. Donc ce n'est pas à un certain âge que vous sollicitez un syndicat dont vous n'êtes ni membre, ni sympathisant, ni facilitateur des démarches de venir vous défendre. Vous savez que nous, récemment, on a eu ce cas. Nous avons fait une déclaration. C'est une affaire qui mettait en cause un journaliste du Canada. Le Canada a fait un communiqué contre le syndicat.
On retrouve Denis Kwebo, on est en sa compagnie, on parle de toute l'actualité liée à la presse et au journalisme et les activités syndicales. Denis Kwebo, On évoquait la question de ces journalistes qui se font embastillés et qui se tournent vers le syndicat alors qu'ils n'en sont pas membres. Vous évoquiez le cas par exemple de Amadou Vamulke qui n'a jamais facilité, vous l'avez dit, l'accès du SNJC à la CRTV qui a pour sa part mis sur pied un syndicat. Et vous évoquiez aussi le cas de Canal 2 International qui a commis un communiqué contre le syndicat des journalistes national des journalistes du Cameroun qui pourtant prenait la défense d'un de ses employés, le nommé Eric Golf Kwatu. Alors comment est-ce que vous réussissez à sortir de ce marasme-là? Comment vous faites pour réussir à tirer votre épingle du jeu, tout en sachant qu'il y a des cas qui restent interpellateurs, comme celui de Paul Tchouta, qui est toujours en détention?
Voilà. Ayant, je crois que nous avons fixé les auditeurs de ADK de la situation de M. Vamulke, pas pour dire que ce qui lui arrive, n'est-ce pas, ne nous intéresse pas.
Oui.
Ce qui arrive à ce qui nous intéresse en tout état de cause. Parce que nous avons l'impression, avec ses avocats également, que justice ne lui est pas rendue. Au nom de des intérêts corporatistes, donc, nous avons, ces derniers temps, entrepris, n'est-ce pas, de nous intéresser à son cas.
Oui.
Nous ne intéressons pas à son cas pour lui.
Oui.
Nous intéressons à son cas pour la justice. Il s'agit d'une question de liberté, une question de justice, qui n'a rien à voir avec la pratique professionnelle. On ne repose pas à M. Vamulke d'avoir diffamé quelqu'un,
oui,
ou d'avoir diffusé une fausse information. C'est des choses qui ont trait, n'est-ce pas, à sa gestion de la CRTV. Et le SNJC peut se prononcer en disant que la façon dont cette procédure se déroule n'est pas conforme, n'est-ce pas, aux règles qui existent dans un état de droit. Et on s'en remet, n'est-ce pas, à la sagesse des magistrats qui sont en charge de son affaire. Par contre, nous insistons beaucoup sur la formation des membres de notre corporation à la maîtrise du fonctionnement syndical.
Oui.
Vous savez, le syndicat, c'est l'adhésion. Le syndicat, c'est la participation. Le syndicat, c'est l'action. Le syndicat, c'est la bonne connaissance de ses droits et ses devoirs en tant que professionnel. C'est la meilleure connaissance de ses droits et ses devoirs en tant que citoyen. Donc, le travail de fond, le travail le plus important que le SNJC fait, c'est cette formation de ses membres. Et si vous regardez bien, sur plus de 750 membres ayant une carte du SNJC, on n'a pas, au cours de l'année, 15 qui ont des démêlés avec la justice.
Oui.
Avec les autorités. Ça veut dire que, en ce qui concerne notre organisation syndicale, c'est un travail qui paye. Ce que je dis est vérifiable. Moi, je suis en train de parler aux journalistes qui travaillent dans un média, je suis en train de parler aux auditeurs qui ont la possibilité de vérifier. En dehors de quelques accrochages, de quelques incidents, nous n'avons pas 10 membres du SNJC par an qui ont des ennuis quelconques.
Oui. Oui.
Ça veut dire que notre travail paye. Notre travail consiste toujours à éduquer les journalistes à leur propre sécurité. Et nous avons dit tout récemment, lors d'une série de formations, que la meilleure sécurité pour un journaliste vient de lui. La meilleure protection pour un journaliste vient de lui-même.
Oui.
Il s'agit pour lui d'exercer son métier en respect des règles d'éthique et de déontologie. Quand vous exercez votre métier en tout respect des règles d'éthique et de déontologie, il sera très difficile que vous soyez accusé sur des faits liés à votre pratique professionnelle. Nous faisons également des formations sur la prestance individuelle et personnelle des journalistes, à savoir que votre conduite dans la vie,
oui,
votre participation aux associations, votre participation au syndicat, à tous les regroupements, aux activités. Vous savez, tous les jours, je vois des journalistes qui participent aux actions de solidarité. Il arrive qu'on cotise 100 francs chacun pour un membre qui est malade, parce que nous savons les conditions dans lesquelles les uns et les autres travaillent. Et ces cotisations-là dépassent ce qu'une assurance aurait pu donner à un journaliste.
Oui.
C'est ce que nous faisons. Donc, les journalistes ne doivent pas attendre d'avoir des ennuis pour penser que les organisations syndicales existent. Nous avons encouragé la plupart des journalistes anglophones, francophones, à adhérer au SNJC, à adhérer à Kamasej, à adhérer à toute organisation, à l'AJSC, l'Association des journalistes sportifs. Nous faisons l'Association des journalistes politiques. Il faut que chaque journaliste aille adhérer à une organisation professionnelle où chaque fois il y aura des débats, des discussions sur les questions professionnelles. C'est ce qui est important. Et ce n'est que de cette façon qu'on aura de moins en moins de journalistes qui ont été députés. Vous avez cité le cas Ponchuta.
Oui.
Vous savez que le SNJC est l'objet d'attaques farouches sur le net pour cette affaire Ponchuta. Il y a des centaines de personnes qui opèrent en colonne, qui au lieu d'attaquer le SNJC d'ailleurs attaquent son président. Mais cela montre, quand on regarde ce qu'ils écrivent sur le compte du SNJC, ce qu'ils écrivent sur le compte du président, cela montre que nous n'avons aucune raison justement de nous mêler de cette affaire. Parce qu'un journaliste professionnel ne peut pas opérer comme troll, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux mal parler des autres,
oui.
Aller sur les réseaux sociaux diffuser des éléments viraux sur les autres, aller sur les réseaux sociaux attaquer une organisation syndicale. Attaquer une organisation syndicale. Et au nom de quoi est-ce que vous attendez le retour? Vous attendez qu'une organisation syndicale, que vous vilipendez sur les réseaux sociaux, vienne à votre secours. Mais vous dites que l'organisation n'est pas crédible. Par conséquent, puisque cette organisation n'est pas crédible, elle ne vient pas à votre secours. Pour qu'elle vienne à votre secours, il faut qu'elle soit crédible. Or, vous passez le temps à indiquer que c'est une organisation qui ne sert à rien, qui n'est d'aucune importance. Et nous n'agissons, ça veut dire que nous n'agissons pas sur des éléments individuels, personnels.
Oui, oui.
Mais vous pouvez aller sur les murs. La Fédération internationale des journalistes nous a interpellés sur le cas Ponchuta. Et nous avons le protocole. Le protocole, c'est que, un, vous devez justifier d'une activité journalistique dans un média connu, reconnu.
Ponchuta n'est pas journaliste.
Allô?
Ponchuta n'est pas journaliste.
Je dis que vous devez justifier d'une activité journalistique.
Oui.
Moi, pour vous défendre, je dois justifier auprès des partenaires du syndicat que vous êtes un journaliste. Je dois justifier de votre activité professionnelle. Je dois également justifier que la raison, le motif de vos ennuis est lié à votre profession et à votre activité journalistique. Et je n'ai pas à répondre de l'activité des uns des autres. Chaque personne peut répondre de sa activité. Est-ce que Paul Chita est poursuivi pour délit de presse? Non.
Pour diffamation.
Par contre, s'il était membre ou sympathisant de SNJC, SNJC pourrait agir dans le cadre de la liberté d'expression. Encore
oui.
Qu'il faut être capable de soutenir devant le tribunal ou devant n'importe quelle institution que la matière querellée, effectivement, est une matière liée à l'expression de sa liberté d'expression pour toute telle institution. Comme pour le cas Amadou Bamboké également, on constate que toutes les règles de droit ne sont pas respectées dans la procédure impliquant Paul Chita.
Oui.
Parce qu'il est en prison depuis au moins une durée qui dépasse les limites de la peine qui aurait été la sienne s'il avait été jugé. Par conséquent, nous considérons Paul Chita comme un citoyen camerounais victime d'un délit d'opinion. Parce que les règles de droit ne sont pas respectées. Ce n'est pas dans une bataille, ce n'est pas au forceps qu'on le constate. En tant que journaliste, nous sommes dans le monitoring de l'état de droit,
oui.
Dans le monitoring des libertés au Cameroun. Donc nous, on affirme haut et fort que d'abord, Paul Chita est en quelque sorte victime de représailles. D'un système qui a probablement des choses à lui reprocher. Sinon, il ne serait pas gardé en prison au-delà de la durée de la peine prévue pour la cause qui est connue. Ça, nous pouvons le dire. Mais nous ne pouvons pas, en tant que syndicat, nous constituer défenseurs de Paul Chita, ni sous la loi, parce que vous savez que nous pouvons être poursuivis lorsque nous intervenons sans droit dans une cause. Le syndicat n'a pas vocation à intervenir dans une cause sans droit.
Oui.
Nous devons justifier du fait que les intérêts socio-professionnels de la personne poursuivie sont en jeu et que de tels intérêts socio-professionnels ont un rapport avec l'existence légale de notre syndicat. C'est ce que les gens doivent savoir.
Voilà.
Nous comprenons bien, et là vous l'avez dit, nous comprenons bien que les gens aient recours à nous comme ultime solution pour leurs problèmes. Mais le meilleur recours pour SNJC consiste à adhérer à une section locale du SNJC qui a des mécanismes pour la défense des membres, qui a des mécanismes pour ne pas anticiper sur des ennuis, en vous disant, parce que moi, je, en tant que président du syndicat, je fais le monitoring des pages Facebook,
oui,
des pages Twitter, des comptes Twitter des membres, et chaque fois, j'ai toujours attiré l'attention sur le fait que tel tweet que vous venez de faire n'est pas bon, tel post sur Facebook n'est pas bon. Tous les jours, vous voyez des prises de position des journalistes sur leurs pages qui ne correspondent ni à l'esprit journalistique, ni à l'esprit même de responsabilité au-delà de notre profession. Donc c'est un travail vaste et on ne peut pas demander à un syndicat sans moyens, sans logistique, n'est-ce pas, de couvrir 10 régions du Cameroun pour faire le travail que même des ONG ne pourraient pas faire. Donc, conclusion, chaque journaliste doit assurer sa propre protection en respectant scrupuleusement les règles d'éthique et de déontologie. Monsieur Achille Asako, pourquoi est-ce que la police ne vient pas vous prendre à l'antenne après vos émissions? Pourquoi la police ne vient pas ramasser tous les journalistes de ABK qui critiquent même tous les jours? Moi, je suis la radio tous les jours dans la voiture.
Oui.
Il y a des critiques très, très acerbes qui relèvent de la compétence des journalistes. Et je n'ai jamais appris qu'on soit venu interpeller un membre de la rédaction pour cela. C'est qu'il y a la prudence professionnelle, il y a la distance professionnelle nécessaire. Donc, moi, je suis des chroniques assez graves.
Oui.
Sur ABK, et jusqu'à présent, je n'ai pas appris qu'un journaliste a été interpellé pour cela, ou il a été inquiété. Et quelquefois même, quand il y a des tentatives d'intimidation, ce n'est que des tentatives, parce que ceux qui opèrent ces tentatives savent qu'ils n'ont aucun élément matériel sur lequel s'appuyer pour embastiller des confrères. C'est pour ça que nous encourageons tout le monde à rester sur la ligne professionnelle.
Voilà.
Le droit à la critique est reconnu à chaque citoyen, à chaque journaliste. Mais le droit aux agressions verbales sur les réseaux sociaux n'est pas reconnu. Et lorsqu'un journaliste est en conflit avec un citoyen, il ne faut pas s'empresser de dire ou de croire que le syndicat va prendre fait et cause pour le journaliste, entre guillemets, sans critique. Parce que ceux qui emploient les journalistes, c'est le public.
Oui.
Nous travaillons pour le compte du public. Et si nous ne sommes pas en mesure de respecter le public, de le protéger, de ne pas le vilipender parce que nous aurions un privilège de la parole et des espaces médiatiques, ce ne serait pas de notre bon droit. Il faut que nous, on respecte le public. Le syndicat ne va pas, à tort, choisir un de ses membres qui aurait violé les droits d'un citoyen. Les citoyens ont le droit au respect, n'est-ce pas, de leur dignité, de leur personne par nous, les journalistes. Si vous ne respectez pas les droits des citoyens, le syndicat se doit de vous dénoncer. Parce que par votre comportement, vous êtes en train de discréditer la fonction journalistique auprès du public.
Voilà. Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes, le 3 mai dernier se célébrait la Journée internationale de la liberté de la presse. Et résultat 2020, le Cameroun chute de 3 places à l'indice Reporters sans frontières, se retrouve 134e, loin, très loin derrière le Gabon et même la Côte d'Ivoire qui est 68e mondiale. On pourrait facilement croire que les journalistes camerounais vivent en enfer. Mais qu'est-ce qui explique ces résultats, Denis Kwebo?
Ce qui explique ces résultats qui vont encore être dramatiques cette année, c'est que un journaliste puisse aller en prison, être détenu au secret pendant des mois, pour qu'on s'entende dire 10 mois après qu'il est mort.
Oui.
On a ce classement parce que policier ou un gendarme qui est au contact d'un journaliste en station de reportage se croit permis de lui arracher sa caméra ou son dictaphone. C'est à cause des comportements irresponsables de certains éléments de force de défense et de sécurité qu'on a ces classements-là. C'est à cause de l'activité irresponsable de certains responsables qu'on a ces classements-là. Il faut que les autorités camerounaises aient une oreille attentive au message que nous véhiculons.
Oui.
Nous venons de parler pendant beaucoup de minutes de la situation de la presse. Si les autorités prenaient le soin d'écouter ce que nous disons, elles comprendraient que la presse n'est pas un adversaire des institutions ou des autorités. La presse est un espace d'expression des citoyens. La presse est un espace de circulation de l'information, quelle qu'elle soit, à condition qu'elle soit d'utilité publique. Il ne faut pas que parce que nous sommes arrogants, parce que nous croyons détenteurs du pouvoir ou d'une grande partie du pouvoir, on pourrait empêcher un journaliste de faire son travail. J'ai parlé de la franchise professionnelle. La situation du Cameroun va s'améliorer dans les classements internationaux ou nationaux lorsque la franchise professionnelle sera respectée. Lorsque les autorités vont comprendre que la liberté d'expression est essentielle à la démocratie et que la liberté de la presse est l'un des critères les plus fiables d'évaluation du niveau d'avancée d'une démocratie. Donc, lorsqu'on va démocratiser notre société davantage, on verra que les gens ne seront pas embâtés et le Cameroun sera mieux loti dans les classements des organisations professionnelles nationales ou internationales. Nous tous travaillons à cela chaque jour. Nous faisons des correspondances. Nous faisons des démarches auprès des autorités. Et vous pouvez penser, je pense que la situation peut s'améliorer davantage. Tout récemment, lorsque par exemple, au niveau du littoral, on a eu des camarades, des dirigeants locaux qui sont allés vers ces autorités pour leur dire, voici comment reconnaître un journaliste. Là, nous avons donné des identifiants. On essaye, on a donné pour le moment quelques gilets, encore plusieurs dizaines de gilets de presse aux journalistes. Parce que ce qu'on nous a souvent retoqué, c'est qu'au Cameroun, il n'existe aucun signe distinctif pour les journalistes. Et c'est possible. Dans tous les pays du monde, les journalistes portent des gilets de presse. Au Cameroun, les journalistes doivent arborer les gilets de presse. Les gilets de presse doivent être cet identifiant-là pour que lorsque on vous arrache votre caméra, c'est n'importe qui a une caméra à doigt là. N'importe qui a une caméra, n'importe qui utilise son téléphone portable pour faire des images. Même des braqueurs peuvent, lorsqu'il y a un incident, s'infiltrer dans la foule avec faisant semblant de prendre des images parce que il y a des journalistes qui utilisent du matériel dérisoire pour faire des reportages. Si on avait des matériels adaptés, professionnels, étiquetés, avec des journalistes et des auxiliaires arborant un signe distinctif qui montre qu'ils sont de la presse, on pourrait en réalité évaluer le niveau d'agressivité, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité vis-à-vis de nos camarades. Mais souvent aussi, on se rend compte qu'il n'y a rien qui marque la différence entre un badaud et un journaliste qui, pour ceux qui sont mal payés, sont mal chaussés. Quand vous regardez l'accoutrement des journalistes, il a tout l'air d'un docker qui ne trouve plus de travail au port.
Effectivement.
Et
alors,
ça aussi, ça ne prête pas au respect de la personne du journaliste. Il y a ces facteurs-là. Il faut que toutes les conditions soient réunies et qu'on puisse évaluer objectivement le niveau de liberté de la presse.
Parlant de liberté de la presse, il y a un confrère qui a fait l'objet d'une attaque presque en règle de la part du gouvernement, Alain Foucault, à qui on reprochait d'avoir donné la parole à un activiste, Calibri Calibro. La sortie du gouvernement, pour vous, c'était un bon plan ou alors une très mauvaise affaire, surtout avec la fameuse déstabilisation, le plan de déstabilisation ourdi, qui aurait été ourdi par Alain Foucault et Maurice Kamto, lié par la proximité ethno-sociologique.
Non, je crois que le FNC s'est déjà prononcé dessus. La réaction qui est celle pas des membres de notre administration a été une réaction farfelue. C'est une réaction désordonnée, disproportionnée, qui montre bien que on n'a pas les mêmes définitions de ce qui est matière professionnelle. J'ai souvent écouté chez RFI beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup de responsables politiques camerounais, Et lorsque ces responsables politiques camerounais sont interviewés, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que ces journalistes ont été de connivence avec le pouvoir en place pour faire quoi que ce soit. Oui. Monsieur Alain Foucault, en tant que journaliste, a le droit, la liberté d'inviter qui il veut à ses émissions. Alors, comme au Cameroun, la censure, la dictature est quelque chose qui ne dérange pas certaines personnes. Il y a justement des responsables du ministère de la Communication qui ont pensé que quelqu'un devait dicter à M. Foucault qui il invite. Le journaliste est guidé par sa seule conscience. Donc, le fait que le gouvernement ait réagi de cette façon montre que nos dirigeants ne connaissent pas ce que c'est que la presse, ne savent pas ce que c'est que la liberté de la presse. Je ne vais pas attaquer les médias publics, Cameroun Tribune et la CIA TV. Est-ce que la CIA TV peut donner la parole au président de la SNIC? Non. La CIA TV ne peut pas me donner la parole parce que je ne vais pas tirer les pommes du gouvernement. Je n'ai jamais été un jour invité sur un plateau de CIA TV pour parler de la presse. Parce qu'ils savent ce que je dirais là-bas. Alors, vous allez dans des médias officiels ou publics qui ne sont pas professionnels. Parce qu'on n'y invite que les gens qui disent ce qu'on veut entendre. Chez ABK, il y a des jours où on vous accuse d'être de l'opposition, c'est vrai, parce qu'il y a un opposant qui est invité. Mais quand vous invitez les gens du pouvoir, on ne vous accuse pas d'être du pouvoir. Vous voyez? Et nous sommes entre le bateau et l'enclume. Et chaque fois que... Parce que moi, j'ai vu l'opposition attaquer Foucault par le passé.
Effectivement.
C'est-à-dire que Foucault fait son travail et qu'il le fait très bien. Lorsque vous êtes attaqué de toutes parts, ça veut dire que vous avez raison. Un journaliste doit s'inquiéter si c'est seulement un camp qui l'attaque. Mais lorsque Foucault est attaqué, RFI est attaqué, était attaqué quelques semaines avant par l'opposition camerounaise, RFI était vilipendé sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, RFI était maintenant porté en triomphe par les mêmes personnes qui les attaquaient, qui sont en train de bien faire le travail.
Oui.
Le choc des contraires, le choc des contraires, c'est la démocratie. Lorsque le contraire, les contraires se font, lorsque aujourd'hui chez ABK, vous avez quelqu'un qui serait proche du pouvoir, demain quelqu'un qui serait loin du pouvoir, après demain quelqu'un qui est en train de faire votre travail en participant à l'explosion des idées contraires. C'est le rôle de la presse. Donc, personne ne peut accuser à l'Foucault d'avoir, dans le cadre d'une émission où on parlait des lanceurs d'alerte, des activistes, appelé Calibo Calibri. Que moi, je n'aime pas Calibo Calibri, mais c'est un activiste lanceur d'alerte. Donc, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas qu'il ne doit pas être invité par Alain Foucault. Et on ne peut pas, de façon malhonnête, reprocher à Alain Foucault d'avoir invité X ou Y au point, directement, de lui imputer une acquaintance avec, je ne sais pas, une proximité, je ne sais pas trop comment, avec Maurice Kamto. Ce sont des épiphénomènes. Je crois qu'il y a des écarts de langage quand le régime est affaibli, quand le régime se sent acculé. C'est tout à fait normal. Je trouve plutôt cette direction-là assez normale. Lorsque vous n'avez pas à, vous n'avez rien à dire, il faut éviter de parler. Vous aurez pu ne pas parler parce qu'il y a le risque de dire des bêtises lorsque on est au mur.
Alors, pour finir, très très rapidement, le SNJC s'est lancé dans une opération de sensibilisation des organes de presse contre la COVID-19. Il y a eu distribution des masques et des gels hydroalcooliques. Est-ce que vous pouvez nous parler des retombées de cette opération? Sinon, combien de journalistes ont déjà été victimes de cette pandémie et comment jugez-vous leur prise en charge, Denis Kwebo? Très rapidement.
On ne nous a pas signalé les cas de membres du SNJC victimes du COVID-19. On peut quand même prier, si vous voulez, qu'on parle comme... il faut prier les dieux qu'ils continuent de protéger les membres, parce que ce n'est pas parce que nous avons pris de très bons dispositifs qu'on n'est pas atteint, mais le niveau de sensibilisation dans la presse est très bon. Je crois que beaucoup de jeunes font attention à eux. Tous les jours, je vois pratiquement des challenges où les gens portent leur masque. On observe les mesures barrières, mais on ne sait jamais comment est-ce qu'un virus nous atteint. Donc, il n'y a pas de proximité, de protection maximale. Il y a seulement la prudence absolue. Et jusqu'à présent, on observe qu'il y a quand même cette silence absolue là. Et le souhait des journalistes qui sont obligés d'aller au fond, d'aller en première ligne, parce que si on n'est pas en première ligne, personne ne saura plus ce qui se passe. On va en première ligne. Donc, en dehors de la distribution des masques, des gels, le SNDC a également eu une formation des membres au FEC. Et en réalité, à travers ces formations et ces actions-là, il était question d'amener le plus grand nombre de membres à prendre conscience du fait qu'il y avait un danger, qu'il y avait un risque et qu'il fallait être prudent. Donc, nous recommandons le meilleur médicament pour nous aujourd'hui, c'est la prudence avec l'observation des barrières. Et je crois que ça porte des fruits. Et peut-être qu'on n'a pas dépisté tout le monde, il faut savoir. Mais nous n'avons pas un cas à désespérer des journalistes aujourd'hui atteints de COVID-19.
Voilà. Denis Kwebo, on vous remercie pour votre présence sur ABK Radio ce matin. Denis Kwebo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun. C'était un plaisir.
Merci bien. ABK.